Et il est 19h. 7h enfin, très bonne soirée à tous. Et c'est un jour triste pour le pays. Première réaction du président Joe Biden après la décision de la Cour suprême américaine. Les États sont désormais libres d'interdire l'avortement. Les détails dans un instant.
Prenez vos précautions si vous devez prendre le train le 6 juillet, veille des vacances d'été. Ce sera grève nationale à la SNCF. Dans ce journal, les prévisions alarmistes de l'INSEE sur l'inflation qui va encore grimper. Les plaidoiries des avocats de Salah Abdeslam. Ils veulent lui éviter la prison à vie incompressible. Et puis Castres-Montpellier, finale inattendue du top 14. C'est à suivre ce soir en direct sur Europe 1.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, des orages l'après-midi sur les régions centre, pluie et fraîcheur à l'ouest, soleil et chaleur à l'est et des valeurs très contrastées.
Météo complète en fin de journal. Et c'est une incroyable régression aux États-Unis. La Cour suprême américaine révoque le droit à l'avortement.
Oui, la décision était attendue, mais c'est un recul historique pour la première puissance mondiale. Alexis Guilleux, vous êtes en direct de New York. En clair, la plus haute instance juridique du pays laisse le droit aux 50 États d'autoriser ou d'interdire l'avortement.
Oui, c'est un coup de tonnerre ici aux États-Unis. Roe versus Wade renversait cet arrêt de 1973, garantissait jusqu'à aujourd'hui le droit à l'avortement. Un bond en arrière de 50 ans, un demi-siècle pour le pays. L'Amérique fait figure d'exception dans le monde, vient de déclarer Joe Biden.
C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. Une erreur tragique de la Cour suprême. Elle a fait ce qui n'avait jamais été fait auparavant, supprimer expressément un droit constitutionnel qui avait déjà été reconnu.
La grande colère des démocrates, une infamie pour Hillary Clinton, une attaque contre les libertés fondamentales de millions d'Américaines, estime Barack Obama, et la chef des élus démocrates, Nancy Pelosi.
Ce matin, la Cour suprême radicale éviscère les droits des Américains et met en danger leur santé et leur sécurité. Aujourd'hui, la Cour suprême contrôlée par les républicains a atteint son objectif sombre et extrémiste de retirer aux femmes leurs droits reproductifs. Aujourd'hui, les femmes américaines ont moins de liberté que leurs mères.
Alors, le cœur de cette décision, c'est qu'il n'y a plus de protection de l'avortement au niveau fédéral. Chaque État pourra décider de sa propre législation et les conséquences vont être immédiates.
Et d'ailleurs, Alexis, le Missouri vient déjà d'annoncer qu'il interdisait totalement l'avortement.
Oui, 13 États ont des textes prêts à être adoptés et promulgués, soit immédiatement, soit dans les prochaines semaines. L'Oklahoma, le Mississippi et bien entendu le Texas, où l'avortement sera interdit dans les 30 jours. Il s'agit du sud du pays, très conservateur, très religieux. À cela, il faut rajouter une dizaine d'autres États qui vont restreindre considérablement l'accès à l'avortement. Au total, ce droit va être menacé pour plus de 35 millions d'Américaines en âge de procréer. C'est la volonté de Dieu, estime pour sa part l'ancien président Donald Trump, qui joue un rôle clé dans cette décision. Lui qui a nommé au cours de son mandat 3 juges ultra-conservateurs de cette Cour suprême. Et on va donc avoir aux États-Unis dans les prochaines années un système à deux vitesses qui va voir le jour. L'avortement sera toujours garanti à New York ou en Californie. Les États progressistes de la côte ouest se sont engagés, par exemple, à défendre ensemble ce droit à protéger les patientes et les médecins. Et car les républicains et les conservateurs veulent, eux, aller encore plus loin. L'ancien vice-président Mike Pence plaide pour une interdiction totale de l'avortement au niveau fédéral. Cette question sera donc au cœur des élections de mi-mandat en novembre prochain. Joe Biden appelle d'ailleurs les électeurs à défendre l'avortement dans les urnes.
Et c'est un coup terrible porté aux droits humains des femmes, selon la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Ces réactions à l'instant de Michel Bachelet. Merci Alexis Guilleux, vous étiez en direct de New York pour Europe 1.
Il est 19h04 en France, mauvaise nouvelle pour ceux d'entre vous qui doivent prendre le train le 6 juillet, ce sera jour de grève à la SNCF.
Et oui, 3 des 4 syndicats représentatifs ont choisi la veille des vacances scolaires pour appeler à débrayer. Est-ce qu'on a une idée des répercussions possibles de ce mouvement, Geoffrey Branger?
Alors pour l'instant, c'est difficile à estimer, hein, mais selon les syndicats CGT Cheminots, Sudrail et CFDT, qui sont donc à l'origine de cet appel, la grève devrait être massivement suivie. En grande partie parce que le 6 juillet, à la SNCF, c'est aussi une journée de table ronde, de négociation autour de la question des salaires. Et dans ce contexte d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat, les salariés vont attendre des gestes forts de la direction, sans quoi des nouvelles journées de mobilisation pourraient être décidées. Thomas Cavel, secrétaire général de la CFDT Cheminots.
Pour le moment, c'est un appel à la grève qui concerne la journée du 6 juillet uniquement. Voilà, donc après, la suite, ça, on n'y est pas encore du tout pour l'instant. Pour l'instant, ce que nous disons côté CFDT Cheminots, c'est qu'il y a 500 000 billets supplémentaires qui vont être mis à la vente, et c'est une très bonne chose. Mais encore faut-il qu'il y ait les moyens, qu'il y ait les emplois en face pour pouvoir le produire. Les salariés doivent avoir un juste retour de leur travail.
Interrogé hier sur les différents mouvements de grève qui agitent la SNCF actuellement, le patron de la compagnie ferroviaire, Jean-Pierre Farandou, s'est voulu rassurant et a indiqué que toutes les options sont sur la table pour trouver une issue à ces conflits.
Et grève aussi dans le ciel, Geoffrey, chez Ryanair, à partir d'aujourd'hui et pour plusieurs jours en Espagne, au Portugal et en Belgique, et à partir de demain en France et en Italie. Sachez aussi que le Conseil international des aéroports appelle tous les passagers à arriver plus tôt que d'habitude, car de longues files d'attente pourraient les retarder. C'est à cause du manque de personnel.
Alors, vous avez trouvé que tout a augmenté, alimentaire, énergie, ça va encore s'aggraver.
Et oui, en mai, l'inflation avait déjà atteint un niveau record, 5,2%, du jamais vu depuis 1985. Si on en croit les prévisions de l'INSEE, Maud Descamps, on risque d'atteindre les 7% cet automne.
En effet, dès cet été, les prix vont continuer à grimper, mais ils devraient se stabiliser à l'automne, aux alentours de 6,5-7%, soit un niveau haut, prévient l'Institut national de la statistique et des études économiques. Une inflation qui toucherait davantage de secteurs, explique Julien Pouget de l'INSEE.
L'inflation, elle est au départ surtout d'origine énergétique, mais elle s'élargirait, par exemple, l'alimentation. Actuellement, l'inflation dans l'alimentaire est d'à peu près 4% sur un an. Nous prévoyons en fin d'année plutôt quelque chose de l'ordre de 8% sur un an.
Vous l'avez compris, faire ses courses coûtera donc plus cher et cette inflation aura un impact différent en fonction du type de ménage, notamment pour les Français qui consomment beaucoup d'énergie, c'est-à-dire les ménages modestes qui vivent dans des passoires énergétiques, ou encore pour ceux qui sont en milieu rural et qui consomment beaucoup de carburant. Le pouvoir d'achat va donc encore baisser. Il faudra donc s'attendre à un recul de la consommation des ménages. L'INSEE table sur une croissance de 2,3% pour l'ensemble de l'année 2022.
Voilà, Maud Descamps et l'inflation. Le pouvoir d'achat sont des dossiers brûlants pour le gouvernement, mais pour pouvoir adopter des mesures, eh bien, il faut une majorité absolue à l'Assemblée.
Et comme vous le savez, ce n'est pas gagné. Pourtant, aujourd'hui encore, Emmanuel Macron se dit prêt soit à bâtir une coalition, soit à trouver des accords, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays de l'Union.
La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue en 1988, mais elle est surtout affreusement banale au niveau européen. Sur l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, et certains avec 5, 6, 7 partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. La question qui nous est posée à tous, dirigeants européens, dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives. Et donc je crois que c'est ce que l'Italie comme l'Allemagne font, c'est ce que nous ferons. Et avec l'ensemble des partis de gouvernement, de pouvoir bâtir soit coalition, soit accord sur des textes pour avancer sur un agenda clair.
Emmanuel Macron, depuis le sommet européen de Bruxelles.
Ouais, et quant à sa première ministre Elisabeth Borne, on en parlait dans la semaine politique, elle se veut plus que jamais à la manœuvre.
Hier, c'était une visite autour de l'énergie, aujourd'hui de l'apprentissage. Tout est bon pour prouver qu'elle est au travail et qu'elle trace sa route, Victor Chabert.
Oui, Elisabeth Borne multiplie les déplacements, les interviews ce matin dans un village vacances en région parisienne, accompagnée du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Elle a notamment échangé lors d'une table ronde avec des apprentis. Elle passe à l'offensive, veut se montrer à la tâche, mais s'en défend.
Ce n'est pas une manière de montrer, c'est le fait que je suis à la tâche, qu'on est à l'action, qu'il y a des sujets à traiter, qu'on les traite. Et notamment la prolongation de ces aides à l'apprentissage, c'est donc, ça se terminait le 30 juin, mais vous voyez, c'est maintenant qu'il fallait les prolonger.
Contesté jusque dans son propre camp, oublié de l'allocution d'Emmanuel Macron mercredi, Elisabeth Borne tente de faire comme si de rien n'était. Elle a terminé cet après-midi les consultations des présidents de groupes parlementaires. Elle en rendra compte à Emmanuel Macron une fois le président de la République rentré en France. La semaine prochaine, l'agenda de la Première ministre s'annonce très chargé. Des réunions tous les jours sur toutes les thématiques avec toutes ses casquettes, dont celle de chef de la majorité. Elle prévoit des entretiens avec des parlementaires de tous bords, le petit déjeuner de la majorité mardi à Matignon et des sorties sur le terrain. Une question n'est toujours pas tranchée. On ne sait pas si elle va demander un vote de confiance des députés à l'issue de son discours de politique générale, prévu en théorie première semaine de juillet.
Victor Chabert. Et puis une troisième plainte vise un membre du gouvernement Borne, Chrysoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État chargée du développement. Des patientes lui reprochent des gestes assimilables selon elle à des viols lorsqu'elle était gynécologue. Accusation selon la secrétaire d'État inacceptable et révoltante.
Une pause et on parle de l'Ukraine. Une ville clé du Donbass vient de tomber aux mains des Russes. Il est 19h10.
Europe Soir Weekend, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Et c'est la suite du journal de 19h d'Hélène Zelani. C'est un tournant dans la guerre en Ukraine, en tout cas sur le front du Donbass, la chute de Severodonetsk.
Oui, les autorités de Kiev ordonnent en effet à leurs troupes de se retirer de cette ville industrielle de l'est du pays. Zoé Palier, c'est une étape stratégique pour la Russie.
Oui, parce que ça permet à Vladimir Poutine d'avancer dans son plan de conquête totale du Donbass, principal objectif affiché de son offensive. La Russie y concentre ses efforts. Résultat, Severodonetsk est détruite à 90%. Cela ne fait aucun sens de rester sur des positions constamment bombardées, a déclaré le gouverneur de Lugansk. Kiev cherche à préserver ses effectifs, mais pour le général Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, Severodonetsk reste malgré tout un symbole de la résistance ukrainienne.
La perte de Severodonetsk, même si elle peut constituer une défaite sur le plan militaire, ne remet pas en cause la stratégie défensive ukrainienne. Les forces ukrainiennes vont se replier en arrière, notamment sur la rivière Dniepr. C'est un repli tactique. Certes, la ville est abandonnée aux mains des Russes, mais pour autant, les Russes ont mis plus d'un mois pour avancer de 5 km. Et c'est donc finalement un des objectifs que recherchaient les Ukrainiens, user l'armée russe dans la conquête de la ville de Severodonetsk.
Reste la question des civils coincés dans la ville. D'après le gouverneur, 568 personnes sont encore réfugiées dans l'usine chimique d'azote, dans la dernière zone contrôlée jusqu'ici par les Ukrainiens.
Zoé Palier.
Au procès des attentats du 13 novembre, l'heure est aux plaidoiries des avocats de Salah Abdeslam.
Oui, le seul membre des commandos encore en vie. Gladys Laffitte, vous suivez l'audience à la cour d'assises spéciale. Ses avocats tentent de lui éviter la peine la plus lourde, la prison à vie incompressible.
Oui, une peine terrible selon l'une des avocates de Salah Abdeslam. Ce qui compte, ce n'est pas de le sanctionner en fonction de ce qu'il a fait ou pas, mais de le sanctionner comme un symbole, tonne-t-elle. Selon les psychiatres, ce n'est pas un sociopathe, pas un psychopathe. Alors pourquoi mettre un double verrou à sa peine, demande-t-elle à la cour. Pour la défense, l'argument juridique qui permet de condamner Salah Abdeslam à la peine maximale du code pénal ne tient pas. Un argument qui considère qu'il y a une scène unique de crime et pas trois, et que l'accusé est donc co-auteur des massacres. Et des tentatives de meurtre des policiers au Bataclan. Or, si cela n'est pas retenu, la perpétuité incompressible n'est plus encourue. Mais c'est le seul survivant qui va prendre pour les autres, regrette l'avocate. Oui, il a renoncé à se faire exploser, il s'est expliqué à l'audience, alors non, il n'est pas irrécupérable, dit-elle. Salah Abdeslam aura l'occasion de parler une toute dernière fois lundi matin, avant que la cour ne parte délibérer.
Salah Abdeslam, qui au premier jour du procès avait revendiqué son appartenance à l'État islamique et lors de son dernier interrogatoire, avait pleuré en présentant ses excuses à toutes les victimes. Allez, on passe au sport. Deux nouvelles médailles françaises au championnat du monde de natation. Mélanie Hennick décroche l'argent dans le 50 mètres papillon. Maxime Grousset, le bronze du 50 mètres nage libre. Déjà 8 médailles pour les tricolores à Budapest.
Et puis le Stade de France va vibrer ballon ovale. Hein. Ce soir, c'est la finale du top 14 entre Castres et Montpellier.
Les portes sont ouvertes. Le public afflue pour cette finale entre Castres, l'un des petits budgets du championnat, et Montpellier, toujours à la recherche de son premier titre national. Axel May, vous êtes déjà dans le stade.
Oui, oui. Deux équipes hein, qui, il y a un an et demi, étaient en bas du classement, aux portes même de la relégation, et qui ce soir vont jouer le titre de champion de France. Le CO, le Castres Olympique face au MHR, le Montpellier Hero Rugby. Le CO sacré à 5 reprises la dernière fois, il y a 4 ans, face au MHR justement. Castres, hein, sous-préfecture enclavée du Tarn, respire le rugby, joue à fond la carte de la petite ville de province face aux grosses écuries du top 14. Et d'ailleurs, quand Pierre-Henri Broncan, l'entraîneur en chef du CO, est interrogé sur sa venue à Paris, écoutez sa réponse pleine d'humour.
Moi, j'aime pas aller à Paris, en tout cas, je le dis, mais j'ai horreur d'aller au Stade de France. Mais pour une fois, je vais connaître le Stade de France autrement que dans le RER, dans les bouchons et ces bars autour du Stade de France à 8 euros la bière.
Alors, là où je me trouve, à côté périphérique, il y a beaucoup, beaucoup de supporters castrés et au milieu d'eux, un Montpelliérain portant fièrement un drapeau aux couleurs de son club.
Ah, aucun problème, oui, bien sûr. Toujours bonne forme, toujours très sympathique.
Bon, et Montpellier, ils vont enfin gagner ce titre ?
Oui,
C'est le bonsoir.
C'est le bonsoir, qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Parce que c'est la revanche 2018 et parce qu'ils en veulent, parce qu'il y a une belle équipe, il y a un bon collectif, un bon état d'esprit, donc c'est le soir ou jamais.
Voilà, Montpellier et Castres, hein, deux équipes au style de jeu assez identique, pas forcément le plus plaisant à voir, mais en tout cas, il y aura du monde ce soir. Rendez-vous compte, hier soir, Hélène, 97% des billets avaient été vendus.
Quand même, hein, grosse Axel, ambiance en vue. Hein.
Axel, 8 euros la bière, il y a au moins un litre, non?
Non, de toute façon, c'est à boire avec modération, vous savez bien, Pierre.
Je sais bien.
En tout cas, c'est un match à suivre. Cher, hein. Avec de l'eau en intégralité sur Europe 1. Le coup d'envoi est à 20h45.
Avec de l'eau. L'eau, c'est dans le ciel. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée. Hein. La météo, Valérie Dermont, les orages reprennent.
Exactement. De l'eau, de l'eau, de l'eau de pluie, hein, voilà, qui reviennent.
Une bonne bière devant le match. Pas
déconner, voilà, non, c'est ça. Alors, demain après-midi, de l'intérieur de l'Occitanie à la Champagne, aux Ardennes, on a une perturbation qui ondule de la Nouvelle-Aquitaine et de l'est des Pays de la Loire au nord de la Seine. Maintenant, un temps couvert et souvent pluvieux sur ces régions. Le matin, ces précipitations qui sont plus soutenues entre le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charente, le centre, la région Val-de-Loire, et dans l'après-midi entre le centre et le bassin parisien, c'est reparti. Mais dans l'après-midi, le temps qui devient plus menaçant et orageux de l'intérieur de l'Occitanie jusqu'à l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne et les Ardennes. On craint donc de nouveau des chutes de grêle et des rafales et surtout des cumuls importants, notamment sur le massif central. La Provence et la Côte d'Azur restent à l'écart évidemment de cette nouvelle dégradation. Les maximales ne vont pas dépasser plus de 18 à 23 degrés sur une large moitié nord de la France. Il fera 24 à 28 des frontières allemandes à l'est de l'Auvergne, sur Rhône-Alpes aussi, et jusque sur le sud-est, et 31 en Provence.
Merci Valérie Darmon, merci à vous Hélène Zelani pour ce journal de 19h qui se termine un peu tard, mais l'actualité aux États-Unis bien sûr nous a beaucoup importé, elle continuera d'ailleurs demain dans la matinale de Thierry Dagiral, 19h18 dans un instant, c'est Guillaume Larrivé qui est avec nous, à tout de suite.
Salut à tous les amis.
Pierre de Villeneuve.